Loup. On parle de grève et de démission dans ce journal. On écoutera Gaston Floss et les responsables de la CPS. Et puis du sport et du marathon, c'est en fin d'édition. Le journal avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Un point pour commencer sur la grève dans les hydrocarbures.
Oui, et sur ce mouvement social porté par la CSIP et son syndicat sectoriel qui est en grève depuis plus d'un mois dans plusieurs dépôts liés à Pétropole et Total. Les négociations ont repris mercredi et d'après VTA, TA et TOA, secrétaire général de l'Union des travailleurs des hydrocarbures, l'accord n'est pas encore là, écoutez.
Il y a eu des discussions, des échanges, c'était mieux que les fois précédentes parce que la réunion qui s'est déroulée juste avant celle-là, ben, c'était assez tendu. La dernière là, qui s'est passée, ben, il y avait des échanges, mais bon, pas assez concluant. Encore dans le sens où il y a quelques améliorations, mais un tout petit chouïa, mais sans plus. Comme en fait, on attend les propositions écrites, que nous, on puisse retravailler dessus, et puis on envoie de notre part nos contre-propositions.
Voilà, selon les syndicats, après plus d'un mois de grève, les patrons ont tout de même fait évoluer leurs propositions en la faveur des salariés. Ils se sont réunis pour établir le projet de protocole hier et l'ont bien transmis. À l'heure actuelle, il est à l'étude par la CSIP. Tous devraient se revoir cet après-midi à 14h.
Et puis la CSIP est aussi en mouvement du côté de Gaz de Tahiti.
Et oui, en tout cas menace de se mettre en mouvement. Le préavis de grève, rappelez-vous, a été suspendu après des propositions de la direction la semaine dernière. Depuis, les protocoles circulent, mais rien n'est signé. Le syndicat de Cyril Le Gaïc demander des avancées sur la convention collective que la direction de Gaz de Tahiti, une société sœur de Pétropole, préfère renégocier plus tard sans menace de grève. Là aussi, un accord est évoqué pour ce vendredi, mais aucun rendez-vous n'a été confirmé.
Sans transition, Charlie, on revient sur cette démission à l'OPH.
Et oui, Oreo Oma et Terry Ray s'est expliqué ce matin sur les raisons de son départ de la direction générale de l'OPH avant même le terme de son intérim qui était fixé au 21 mars. Il a d'abord tiré le bilan de ces 4 mois. Il avait été nommé, rappelez-vous, le 22 septembre dernier. Et en évoquant une situation financière très compliquée à son arrivée dans l'office, avec 4,5 milliards de dettes envers les fournisseurs, principalement des entreprises de construction. Dettes qui auraient, dit-il, été intégralement réglées. J'estime avoir fait le travail pour lequel j'avais été engagé, insistait-il ce matin. Côté gestion de personnel, la ministre du Logement, Chantal Minari-Galnon, suggérait hier sur notre antenne que le jeune directeur avait peut-être eu plus de mal par manque de maturité. Lui tire un bilan plutôt positif de ce côté-là.
Je ne dis pas que tout a été rose non plus. Hein. Pendant ces 4 mois, j'ai la chance d'avoir voilà, des personnes qui sont responsables, qui sont là. Lorsque j'ai pris mes fonctions, peu de temps après, j'ai certains de mes cadres, pour des raisons X ou Y, qui étaient absents de l'établissement. Il a fallu driver moi-même les équipes opérationnelles, sans avoir les cadres intermédiaires par derrière. Donc, je tiens à le préciser, parce que je pense que si je manquais de maturité, je n'aurais pas tenu une semaine au sein de l'établissement, et le personnel aurait remercié le gouvernement de me licencier déjà.
Voilà, alors si ça n'est pas la gestion du personnel, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi avoir démissionné ? Le jeune juriste de formation dit s'intéresser davantage à la stratégie et à la transversalité qu'au pilotage opérationnel. C'est une vision plus globale de l'habitat qui m'intéresse, dit-il. Il reste toutefois assez évasif sur la raison exacte de son départ, disant qu'il ne dispose plus de conditions optimales pour travailler sereinement. Affaire à suivre, il se dit en tout cas prêt à servir le pays autrement. En attendant, le gouvernement doit trouver un nouveau directeur général pour l'OPH, le 4e en moins d'un an, puisqu'après la démission de Moana Blanchard, Yann Jambé avait fait un saut de 15 jours dans le siège avant de démissionner sur fond d'affaires de détournement de fonds avec son ancien employeur. Hier, le nom de Bruno Marti, ancien ministre de Gaston Floss et actuel directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'Office, était évoqué. Chantal Minari-Galnon dément formellement.
Non, ça ne va pas passer comme ça. Je vais faire un appel à candidature. Je vais choisir un jury avec des membres du conseil d'administration. Il y aura des entretiens. Donc, il n'y a personne au niveau de l'EPH qui est pressenti. Je le dis franchement.
Voilà, la ministre du Logement et ministre de tutelle de l'OPH, donc elle était au micro de Caroline Perdry.
Politique maintenant, on a parlé du camp autonomiste avec Gaston Floss.
Oui, l'ancien président a débuté l'année en ramenant sur le devant de la scène la question du renouveau de ce camp autonomiste dont la division a beaucoup contribué à la défaite au territorial. Ce rapprochement qu'Edouard Fritch disait déjà avancé en août dernier ne semble guère avoir progressé, hormis l'annonce récente de l'accord de principe de Tevaro Fritch. En revanche, Aere Iapolinetia n'aurait toujours pas été appelé par Edouard Fritch. Quoi qu'il en soit, le Tapura et le Amuitaira doivent d'abord choisir entre alliance et fusion, et ce n'est toujours pas tranché. Gaston Floss semble avoir une préférence pour l'option fusion. Écoutez.
Il y a deux possibilités, il y a deux voies pour nous. Ou bien c'est l'alliance, chacun reste chez soi, mais on signe un protocole d'accord sur les grands dossiers à l'Assemblée, pour les élections, mais chacun reste chez soi. Ou bien le deuxième, c'est la fusion. On se met tous ensemble, Et j'ai demandé, les autres sont d'accord, en tous les cas, Edouard est d'accord, à condition que nous, les chefs de parti actuels, ne soient pas présidents de ce nouveau parti. Que le nouveau président soit également issu du Tapurwir Attilan.
Alors pour ce projet, il reste encore plusieurs inconnus. Écrire les statuts, c'est facile. Trouver le nom, c'est facile, dit le vieux lion. Après, se répartir les responsabilités, c'est un peu plus difficile. Le nerf de la guerre aussi est une question. Lorsqu'il le dit lui-même, les revenus sont uniquement issus des indemnités des représentants à l'Assemblée. Gaston Flosse a également été interrogé sur le scepticisme de ses potentiels futurs alliés, Noué Olloré et Teva Rofritsch, au sujet du concept de souveraineté associée à la France, qu'il porte depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est pas une obligation, dit-il, je pense que c'est l'avenir institutionnel de notre pays, mais ce n'est pas une des conditions, je cite, pour créer une nouvelle plateforme. C'est ce qu'affirme donc le leader Orange. Pour autant, l'idée d'un État associé à la France lui tient toujours à cœur, notamment, dit-il, en référence à la crise sanitaire et aux modifications de la dotation globale d'autonomie au fil des ans, parce que la France piétine notre autonomie. Il le répète, il estime qu'un simple amendement à la Constitution, à l'occasion de la future réforme constitutionnelle, donc, suffirait à rendre cette association possible.
Et ça, c'est facile, ou bien on modifie la Constitution, on doit la modifier en début d'année prochaine, car c'est vrai, la Constitution aujourd'hui intime la France de s'associer qu'avec un État indépendant, et nous ne sommes pas. Mais il peut ajouter dans la modification ou une collectivité d'outre-mer en voie de devenir. C'est tout. C'est facile comme amendement.
Voilà, Gaston Flosse, chef de file du Amui Taira, qui en profite pour glisser un tacle appuyé à celui qui occupe le poste de président actuellement. Je ne pense pas que Mouetei soit vraiment conscient de la situation de notre pays, dit-il, en pointant une économie foutue et agonisante qui a besoin, selon lui, d'un bon coup de rafraîchissement. Enfin, Gaston Flosse juge le gouvernement peu compétent. Il juge que le ministre des Finances est, je cite, un incapable, même chose pour celui de la Santé et de l'Agriculture. Son interview est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et on l'apprend, Charlie, le papier à l'arrêt à la CPS.
Eh oui, à l'arrêt ou presque. Après avoir dématérialisé les chèques emploi-service l'année dernière, la Caisse de prévoyance sociale offrira la possibilité à partir de ce lundi de se passer de papier pour les arrêts de travail. L'application Atulu, en cours de validation par les plateformes, et la concrétisation de la loi votée fin novembre qui prévoyait la création donc d'un téléservice pour pouvoir attester de l'incapacité de travailler d'un travailleur à exercer son activité. La case médecin est toujours obligatoire, bien entendu, mais les professionnels de santé pourront remplir un arrêt directement sur leur ordinateur ou tablette au travers de RIMA, une interface professionnelle en opération depuis bientôt 10 ans. Le certificat généré en quelques clics sera immédiatement disponible grâce à Atulu, donc sur les smartphones des patients. À eux ensuite de décider ou non de les transmettre depuis l'application à leurs employeurs pour déclarer leur arrêt à la CPS et pour obtenir des indemnités. Pour la caisse, c'est bien sûr des gains de temps encore difficiles à évaluer qui sont attendus. C'est ce que rappelle la directrice de la CPS, Romy Nama.
L'augmentation du nombre de papiers à traiter rend aujourd'hui obligatoire de passer à des systèmes de numérisation. Et effectivement, il a été mis en place dans le cadre de cette dématérialisation le choix de demander au médecin de saisir la pathologie pour laquelle le patient est arrêté pour effectivement aboutir à une veille sanitaire en cas d'épidémie.
Voilà ce formulaire numérique qui n'est pas franchement complexe de prime abord, a tout de même suscité l'interrogation de chez certains médecins, et notamment la case permettant de sélectionner une pathologie à l'aide d'un code, d'un nom ou d'un menu déroulant. On écoute le docteur Bondou, président du syndicat des médecins libéraux.
Tout ce qui peut contribuer à diminuer le temps administratif et à nous faire gagner du temps dans tout ce qui est paperasserie au quotidien, nous signons des deux mains, bien sûr. Nous verrons à l'usage si cette dématérialisation et le processus et la façon de faire cette dématérialisation du point de vue du professionnel de santé, fait gagner du temps à tout le monde ou pas. Nous avons une petite année de réflexion en pratiquant cet arrêt de travail dématérialisé. Si ce n'est pas le cas, nous rediscuterons pour le rendre plus fonctionnel.
Voilà, à noter que les formulaires papier ne seront pas retirés de la circulation. Pardon, ils devraient continuer à être utilisés le temps que les 112 000 adhérents du guichet en ligne, la CPS, le service Tato, se convertissent à l'application et à l'arrêt dématérialisé. Ils resteront surtout utilisables de façon permanente pour les personnes qui n'ont pas d'accès à un smartphone ou à Internet.
Et puis, on parle de cette action en faveur de la jeunesse.
Oui, elle est intitulée Généraction, vous la connaissez. C'est la troisième du genre depuis la mise en place du nouveau gouvernement. La première édition avait été lancée en juillet dernier à Montréal. Le deuxième a eu lieu en novembre dernier. Et la prochaine est prévue le 3 février prochain à Tairapuest. La thématique retenue pour ce Génération 2024 est s'ancrer dans sa culture pour mieux avancer. Ce jour-là, les jeunes pourront donc découvrir des ateliers de prévention, mais aussi des ateliers culturels. Ils pourront aussi s'adonner à des activités sportives traditionnelles, le tout gratuitement. Ça se passe donc le samedi 3 février au complexe Tupai Hititua Tei de Tautira.
Et puis on finit ce journal par du sport avec ces deux épreuves locales pour les marathoniens cette année.
La première, c'est le marathon de Moorea qui va se courir cette année pour la 33e fois. Ce sera le 30 et le 31 mars prochain. L'événement organisé ces dernières années par Moorea Event est repris, comme on vous l'annonçait déjà en novembre dernier, par la VSOP XO qui ambitionne d'en faire l'événement course sur route de l'année. Les organisateurs parlent d'y apporter une dimension plus internationale, mais aussi de redynamiser l'image du rendez-vous. Cette année, il n'est pas question de départ en pleine nuit, ni de longue distance en continu, puisque le coup d'envoi sera donné plus tardivement et que le parcours devrait se dessiner sous forme de circuit pour créer un engouement chez les habitants de l'île Sœur. Et cet engouement, l'association Teivatua Kohoatea, présidée par le multiple champion George Richmond, espère aussi la retrouver deux mois plus tard, le 18 mai, au Enua Enana, car après plus de 10 années sous silence, le marathon des Marquises revient à Ivaoa. Les organisateurs parlent d'une épreuve difficile avec des dénivelés importants et nécessitant une préparation sérieuse. Les courageux auront le choix entre courir l'épreuve complète de 42 km ou de le faire en relais. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril à Olympian Sport. A noter que les inscriptions pour le marathon de Moorea, elles, démarrent d'ici demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude pour l'actu. Ce sera en milieu d'après-midi à 16h, excusez-moi, pour le flash de la rédaction. Je vous dis à tout à l'heure.